France Inter. Le masque et la plume. Cinq livres et autant de coups de cœur au programme du masque aujourd'hui, de la littérature étrangère avec l'Irlandais John Boyne. Un premier roman intitulé « Quatre jours sans ma mère » signé Ramsès Kefi. Dans notre programme aussi « Feu sacré », texte autobiographique de Cécile Gilbert. « Le boyfriend », best-seller, justifié ou non, de l'américaine Frida McFadden, et le texte d'un excellent nouvelliste français, David Thomas, qui publie le roman « Un frère ». Pour en débattre, quatre plumes connues et nouvelles, Elisabeth Philippe, du Nouvel Obs, Bernard Poirette, auteur du podcast dédié au polar « C'est à lire », Laurent Chalumeau, auteur, et Anna Sigalevitch de France Culture, qui nous rejoint pour la Tribune Livre aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Voici le masque. Je vous écoute depuis ma chambre d'hôtel de Reykjavik en Islande. Entre parenthèses, oui, je me la pète, écrit Frédéric Rapilly. Merci pour la vivacité réjouissante de vos passes d'armes à fleuret pas très moucheté. À la fin de la dernière émission, j'avais envie de tout lire. Donc là, les gentillesses, ça, c'est fait. Maintenant, passons à la suite. Heureusement que nous avons le courrier des auditeurs pour donner d'autres possibilités de lecture, écrit Enrique Gomez Marin depuis la Colombie. Cet auditeur sud-américain revient sur la critique du « Fou de Dieu au bout du monde » de Javier Cercas, récit de son voyage avec le pape François en Mongolie. Le livre de Cercas permet d'apprendre l'existence d'une église beaucoup plus universelle et diverse que le regard eurocentriste de vos critiques le laisse entendre. « J'aurais dû me méfier », m'écrit la lectrice avisée sur Instagram. « J'aurais pu me douter qu'un livre unanimement encensé par le masque fût un piège, un leurre, à la fois génial et prétentieux. Je veux parler des forces de Laura Vasquez, quelques fulgurances au milieu d'une logorée qui m'a saoulée. Morale, toujours se méfier des avis trop consensuels. Un gigantesque merci pour les éloges des forces de Laura Vasquez, du jamais lu, écrit au contraire Sandra Deray. Depuis la Réole en Gironde, Valérie de Saint-Dos fut quant à elle effarée par les critiques à l'encontre du dernier roman de Jonathan Coe, intitulé « Les preuves de mon innocence ». « Vous avez multiplié les contresens », écrit cette auditrice. « Les preuves de mon innocence » est le portrait de l'extrémisme conservateur au Royaume-Uni qui, par sa bêtise, n'a rien à envier au trumpisme. Jonathan Coe n'écrit pas que le conservatisme, c'était mieux avant. Il en démolit le pseudo-romanesque et célèbre la fiction comme échappatoire. Enfin, en fait, écrit Marion Barlet depuis Paris, je voulais vous signaler que vos critiques sont atteintes du syndrome, en fait. En fait, bien à vous, et du coup, virgule. On commence avec « Feu sacré » de Cécile Gilbert, essayiste et romancière qui signe une autobiographie singulière, le parcours d'une femme qui s'est bâtie une armure, si on peut dire, de culture, de connaissances rationnelles, armure qui va se fissurer avec la découverte d'un pays, l'Inde, et de sa spiritualité, l'hindouisme. C'est donc un récit initiatique, un récit de voyage aussi, au mi-temps d'une vie marquée par des deuils. Ce sont ces deuils, autant que des rencontres, qui conduisent Cécile Gilbert à l'hindouisme. C'est enfin le portrait d'une famille bourgeoise, bohème, foutraque, dont les piliers sont une grand-mère maternelle qui a élevé l'autrice, un oncle, une tante qui lui font découvrir l'Inde, un cousin adoré, un frère cadet rebelle. Tous disparaissent, ou plutôt meurent, parce que Cécile Gilbert raconte les morts sans euphémisme. Elisabeth.
Je pense que c'est un des plus beaux livres qui m'était donné de lire en cette rentrée littéraire. C'est vraiment une pure splendeur pour moi, ce livre de Cécile Gilbert. Déjà, rien que le titre, Feu sacré, évidemment, c'est les épiphanies qu'elle a au cours de cette autobiographie métaphysique. Comme elle parle beaucoup de la mort, on entend aussi les feux comme l'adjectif pour parler des défunts. Donc, dès le titre, il y a toute cette ambivalence et ce jeu de double qui est celui de Cécile Gilbert, qui est une styliste incroyable, parce que c'est certes un chemin spirituel, mais qui est porté par une écriture écriture extrasensorielle. Pour moi, elle a vraiment, Cécile Guilbert, c'est une dandy, elle se présente elle-même comme une dandy, une esthète, et elle a une écriture qui m'a rappelé celle de, par exemple, de Huysmans. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que Huysmans, cet écrivain de la fin du 19e siècle, lui s'est converti au catholicisme, et elle, Cécile Guilbert, ne raconte pas, elle raconte une autre forme de conversion, puisqu'elle le dit elle-même, c'est quelqu'un qui a fait des études de philosophie, qui était une grande lectrice de Nietzsche, pour qui seules les lumières du 18e siècle comptaient, et qui, pendant longtemps, a plutôt snobé et regardé de haut et de loin cette folie pour l'Inde qui avait déjà saisi beaucoup de membres de sa famille.
Et quand soudain, le yoga.
Le yoga vient assez tard finalement
dans sa
conversion, mais je trouve que c'est un tour de force parce que ce livre n'est jamais illuminé, il est enluminé, mais c'est pas du tout une sorte de trip mystique. C'est dès les premières pages, c'est la description de ce palais indien dans lequel on retrouve un prince décédé, un palais englouti par la végétation, et elle arrive à rendre sublime les choses les plus affreuses, les plus horribles, la pourriture, les bûchers qui la fascinent quand elle va à Bénarès. C'est comment on vit avec la mort, comment on vit avec nos morts et comment on fait pour avoir une mort à soi. Et ça pourrait paraître absolument sordide, sinistre, et absolument pas, c'est toujours lumineux.
Bernard.
Alors, je souscris pas mal à ce que vient de dire Elisabeth,
dans le sens
où... Non, bon, on n'est pas souvent d'accord, Elisabeth. Mais là, en l'occurrence, oui, elle a une écriture magique, cette femme. Je ne la connaissais pas. C'est le premier livre de Guilbert que je lis. Pour moi, c'est une vraie révélation en termes d'écriture. À la fois, c'est un livre qui m'a fasciné pour les raisons que tu viens de dire. C'est vrai que les thématiques sont très intéressantes. La famille qu'elle décrit est totalement hors norme. Elle a une fascination pour la mort et tout son descriptif touristique, entre guillemets, de ses voyages en Inde, avec son malheureux mari Nicolas, d'ailleurs, qu'elle traîne derrière lui, alors que lui ne veut pas y aller au départ. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays impossible ? Enfin, c'est un fake, c'est dégueulasse, on va être malade, etc. En plus, il n'est pas du tout dans le trip hindouiste, lui, pas du tout. C'est un pur matérialiste occidental. Bon, finalement, il est happé par le phénomène et puis par cette femme qui a l'air d'avoir un tempérament tout à fait extraordinaire.
Tempérament de feu.
Mais à la fois, il m'a exaspéré pour tous ces côtés-là. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres entiers de réflexion sur la littérature hindouiste, sur les dieux, sur les mythologies, tout ça, qui m'ont semblé pénibles, très très pénibles. Et j'ai regretté parce que ça apparaissait comme des scories sur un texte qui, par ailleurs, est formidable parce qu'elle est fascinante, elle écrit remarquablement.
Anna, exaspérée ou réchauffée par l'écriture et le récit de...
Totalement réchauffée. Je trouve que c'est un livre qui est extrêmement précieux, vraiment. C'est comme un talisman parce qu'il contient des pouvoirs assez magiques et c'est un parcours intellectuel, spirituel et émotionnel qu'elle nous fait vivre qui est tout à fait unique. Alors moi, je dois dire que je n'ai pas été saisie dès les premières pages et c'est ce qui m'a intéressée d'ailleurs parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui résiste quand elle est dans l'exercice du roman familial. Je la sens pas tout à fait à l'aise dans l'affection de la famille, parce qu'elle a quelque chose de raide, elle a quelque chose de dur. Et ce qui me semble très intéressant dans le livre, c'est que cette armure, au fil des drames qu'elle va vivre, va petit à petit se fissurer. Et la lumière va rentrer. Et quand, page 190, elle est prête à rencontrer le Darsham, c'est-à-dire l'événement, le divin, la rencontre avec quelque chose de plus grand que soi, et ben nous aussi, on est prêts. Et en fait, moi, la spiritualité hindoue, c'est pas a priori totalement mon truc, mais elle m'y a préparé pendant toutes ces pages et j'y suis disponible. Et c'est vraiment le chemin d'une construction qui passe par une déconstruction pour une renaissance. Il y a ça qui est absolument magnifique. Il y a son rapport à la littérature. Il faut en parler parce que c'est quelque chose, là aussi, d'extraordinaire. Ça n'est jamais de la citation. C'est comme un réservoir de lecture. Il y a Virginia Woolf qui dit « Écrire, c'est lire ». Mais qu'est-ce qu'elle lit bien ? Et qu'est-ce qu'elle partage avec nous ? Exactement, c'est sa sève et elle la partage de façon magnifique et on découvre des auteurs. En ce sens, elle est un petit peu comme Mathias Sénard. C'est-à-dire qu'ils ont le goût des autres, ils ont le goût de lire les autres et de les partager, elle le fait magnifiquement et je pense que c'est un livre très rare et sublime.
Laurent.
Comme j'aime à dire, en le pensant souvent, ce sont ceux et celles qui aiment qui ont raison, donc je voudrais dire aux gens qui nous écoutent que ce sont des petits camarades qui ont raison Et d'avoir pris cette précaution, ça me permet d'avoir tort sans trop de scrupules. Parce que l'intelligence de ce livre est aveuglante, l'aisance, l'allégresse et la vivacité du style sont avérées. Et pourtant, chose rare, ce livre me fait l'effet d'être constitué d'un tout inférieur à la somme de ses parties. Je vais essayer de m'expliquer. C'est un Scooby-Doo, en fait, qui tricote trois fils. Le premier, c'est une autobiographie familiale, comme il s'en publie avec une régularité de moissonneuse batteuse lieu ces jours-ci, mais c'est plutôt mieux écrit que d'habitude, et donc se trouve que ça fournit les meilleures pages du livre. Le deuxième fil, c'est la soirée diapo que vous infligent tous les relous qui viennent de se faire l'Inde, en un seul mot, et qui veulent à toute force vous infliger le récit détaillé de leurs éblouissements. Alors là encore, c'est bien écrit, mais c'est beau et chiant comme un documentaire du National Geographic. Et alors, le troisième fil...
Je crois qu'il y en a quatre.
Et évidemment, c'est celui qui pose problème de mon point de vue, c'est que c'est la figure de la confession du dandy qui a été touché de plein fouet par la grâce mystique. Et là, on a le choix entre s'attendrir ou s'agacer de la complaisance, voire de la vanité avec laquelle l'autrice inventorie ses frasques passées, d'une part pour bien montrer qu'elle a su profiter de l'existence, et puis surtout pour donner du poids et de la solennité à sa born-again humilité et à sa sagesse toute neuve.
C'est pas du tout comme ça qu'elle présente les choses.
Certainement. Sauf que le problème, c'est que dès qu'il s'agit de philosophie, je trouve que le texte est trop élitiste ou pas assez. Il est clairement trop crypté, trop savant, trop exigeant pour fonctionner comme une vulgarisation ou une initiation. C'est la preuve que Cécile Gilbert a encore du travail sur la route de sa bonification, parce qu'elle n'a pas encore le partage spontané et naturel. Et à l'inverse, je pense que si de vrais initiés lisent ça, ça leur fera quand même l'effet d'être de l'ordre de « oui, oui, la gomme magique ».
Non, mais elle n'écrit pas un guide de développement personnel d'initiation à la pensée hindouiste, ce n'est pas son propos.
Bah quand même, le partage de sa révélation est l'un des moteurs de
l'écriture de la place. Oui, mais je pense qu'au-delà de la croyance particulière, c'est plus le fait de développer en soi une vie intérieure, quelle que soit la croyance qu'on y développe. Mais c'est comment on peut déployer en soi une vie intérieure qui fait que notre vie est bien plus
Donc elle aurait
pleine.
Pu être plus elliptique et plus claire.
Non, c'est pas du tout mon propos. C'est juste que son point n'est pas de te décrire par le menu ce en quoi consiste...
Alors ça tombe bien, car elle a failli. Et surtout, ça prouve, s'il en était besoin, qu'il suffit pas qu'un livre soit bien écrit.
C'est quand même déjà une...
Il faut un petit quelque chose en plus. Alors vous allez me dire quoi ? Eh ben, si je le savais, je serais pas à perdre mon temps avec vous. Je serais à Stockholm en train d'accepter mon prix Nobel. Voilà.
Feu sacré de Cécile Gilbert est édité chez Grasset. Le livre suivant est un premier roman signé Ramsès Kefi, paru sous le titre « Quatre jours sans ma mère ». C'est donc l'histoire d'une femme qui s'absente, et c'est le drame. Un drame pour son mari, Eddie, et pour son fils, Salman, 36 ans, toujours chez ses parents, diplômé sans ambition en histoire ancienne, et qui gagne sa vie dans un resto de quartier. Elle, c'est Amani. Elle a 67 ans, elle est femme de ménage à la retraite, et elle s'est fait la belle sans prévenir. Père et fils se lancent à sa recherche, avant que Salman ne mène une enquête qui le conduira jusqu'en Tunisie. L'enquête en question met à nu les relations familiales, où la culpabilité tient sa place, elle révèle surtout le passé d'un couple émigré qui n'a jamais élevé son fils dans la nostalgie du pays d'origine ou dans l'espoir d'y remettre les pieds un jour. Ramsès Kefi fait aussi le portrait d'un quartier de la banlieue française dont les habitants se disent métis, c'est-à-dire, je cite, mi-paysan, mi-banlieusard, et le portrait surtout des personnages qui animent ce quartier appelé la caverne. Bernard.
Ah, écoutez, j'ai été enthousiasmé par ce bouquin, qui donc est un premier roman. Et d'ailleurs, Philippe Rey, son éditeur, a dit dans une interview « C'est la première fois de ma carrière d'éditeur que j'achète un livre sans l'avoir lu en entier. » C'est-à-dire qu'il a juste lu les 50 premières pages. Il a dit « Bon, ça, je prends parce que forcément, ça va être dément. » Alors, c'est pas un truc qui va marquer l'histoire de la littérature mondiale, mais vous lisez ça avec un bonheur, mais absolument indicible. Parce que l'histoire est merveilleuse. D'abord, cette femme qui s'en va, qui laisse juste un mot, elle dit « je dois partir vraiment, mais je reviendrai. Tu comprendras, c'est un mot pour son fils unique, hein. Je t'aime, à bientôt fils. Le fils qui a 35 ans, qui vit chez papa et maman, donc dans une tour HLM, dans ce quartier de la caverne. Parce qu'en fait, tous les murs sont tagués avec des trucs préhistoriques, avec des orocs et tout ça. Donc voilà, c'est un lieu totalement extraordinaire. Et comme disait Rebecca, les personnages qui habitent ce lieu extraordinaire sont eux-mêmes extraordinaires. Et ce fils et ce père qui se retrouvent tout seuls réalisent au moment où la mère est partie que sans elle, ils ne sont rien. Et ils ont deux réactions totalement différentes. Le père devient fou. Il dit « je vais divorcer, je vais changer les serrures, il n'est pas question qu'elle remette les pieds ici, etc. » Et le fils se désagrège littéralement et en fait, bon, c'est quand même un Tanguy de 35 ans qui est nourri, logé, torché 36, chez ses parents, ouais. 36 même, et qui réalise que sans elle, il ne peut pas, c'est pas possible. Attendez, il travaille dans un fast-food tellement nul que la phrase d'accroche du fast-food, en fait, c'est « ils font leur meilleure soirée quand il y a des retransmissions de foot ». Et donc, ils disent « nos écrans plats sont nos meilleurs plats ». C'est quand même génial.
Non, mais surtout, le nom, voilà. Le nom du restaurant.
Ah, le nom du restaurant.
Parce qu'ils servent à la fois des tagines et des sushis. Oui. Et ça s'appelle Shirashid.
Shirashid.
Et moi, je trouve ça Shirashid, génial.
Voilà. Mais c'est merci de donner le ton du livre.
Ah oui, c'est ça.
Et en plus, parce que c'est un livre drôle et c'est pas tous les jours fête. Donc franchement, vous allez passer un très bon moment avec lui.
Laurent.
Écoute, moi, j'ai lu ce livre en c'est été, bien. Sans me douter qu'il allait... connaître le parcours triomphal et le tour de stade, les bras levés qu'il est en train d'exécuter, ça me réjouit infiniment. J'ai adoré ce livre. Vraiment, c'est un enchantement. Je trouve que tu es même mesuré dans l'expression de ton enthousiasme. Je suis content de voir qu'il a plu aussi à Elisabeth. Suspense, on verra si Anna a souscrit, mais ne dis rien, ne spoile pas. C'est un livre qui démontre qu'on peut être fort et doux à la fois, sensible et intelligent. Le registre de langue est parfait parce que c'est celui de quelqu'un d'un peu éduqué qui s'efforce de raconter de son mieux une histoire. Donc, c'est écrit en français, c'est-à-dire que ça n'est pas parce que c'est écrit depuis la banlieue que ça s'engouffre dans une oralité un peu obligée et convenue. L'action se déroule en banlieue, mais le sujet n'est pas la banlieue. C'est ça qui est formidable. Et pour autant, la banlieue est présente, puisqu'elle est, en forçant le trait, on pourrait même dire que parfois, elle est un peu le personnage, mais elle n'est en aucun cas le sujet du livre. Et c'est ce qui me paraît, moi, le plus important, c'est que c'est un texte où l'auteur fait le choix esthétique, donc éthique, voire politique, de la bienveillance. Et une bienveillance qui est sans sensiblerie, sans mièvrerie. C'est une bienveillance qui est dupe de rien, certainement pas du hors-champ du livre, mais qui choisit de pratiquer une bienveillance de résistance et qui éclaire ce qu'on a de moins pire, collectivement et individuellement, plutôt que de tartiner la merde comme du Nutella. Et franchement, ces jours-ci, c'est bienvenu.
Absolument.
Anna.
Je souscris à tout ce que vous avez dit. En effet, c'est un livre qui, il écrit, il parle des personnages qui l'entourent à hauteur d'homme. Il y a quelque chose de très humain, de très lucide, mais de simple dans la façon, et en effet de bienveillant dans la façon dont il regarde les personnages qui l'entourent. Moi, ce qui m'a frappé avant tout quand même, c'est la langue. C'est cette écriture, oui. C'est cette gouaille qu'il a, c'est ce sens de la formule.
Avec parfois des mots désuets, pour le plaisir.
Oui, c'est avec ça, des mots désuets.
C'est de l'argot, des fortifs.
De l'argot d'un autre temps, c'est presque du Raymond Queneau,
Ce n'est jamais too much.
Ah non, mais non.
Il tartine pas du tout.
Non, mais je dis pas qu'il tartine,
mais au contraire,
non. Il a vraiment un sens de la formule qui est absolument exquis. C'est une langue qui est affûtée, avec une capacité, en effet, de faire exister des personnages. Tout le monde existe autour de lui. Alors, c'est pas un livre sur la banlieue, c'est plutôt une réécriture de la caverne, quand même, parce qu'on ne peut pas ne pas penser à Platon, évidemment, avec tous ces fantômes, ces personnages qui sont comme, un peu comme des ombres, un peu prisonniers et enchaînés dans leur propre chaîne, et cette mère Amani qui à un moment donné choisit de braver tout ça et d'aller vers la lumière et de prendre le risque de la vérité parce que, trois petits points, je ne vais pas plus loin, mais en effet ça, c'est un livre qui a énormément de charme.
Ça fait deux fois et qui donne une femme qui va vers la lumière, hein. Il y a Amani et
mais oui je suis une illuminée, pourquoi pas, je suis le blanc vêtu, vous voyez,
tu es mûre pour aller vers la lumière d'une manière ou d'une autre, hein, mais
voilà, en tout cas, c'est un livre qui donne très envie de lire la suite et qui rend cet auteur, Ramsès Khéfi, éminemment sympathique.
Elisabeth.
Je suis un petit peu inquiète. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait deux fois dans la même soirée que je suis d'accord avec Bernard.
Eh oui.
Jusqu'où ça va aller, Bernard ? Je ne sais pas.
Je sais.
Non, bah évidemment, je vous rejoins tous et toutes, tous et Anna. C'est un roman absolument débordant de tendresse, de drôlerie, de finesse. Et je ne dis pas ça seulement parce qu'il y a un chat qui joue un rôle non négligeable dans le livre.
Chat,
vous avez tous oublié le chat, et ça, c'est mal. Non, c'est extrêmement tendre. Ce que je trouve qui est très, très beau, c'est la façon dont il fait circuler les sentiments entre tous les personnages de ce livre, la relation entre ce fils, Salman, et ses parents, mais la relation entre les parents entre eux. Enfin, tout ça est vraiment magnifique, comme vous l'avez tous dit. La fantaisie de cette écriture, c'est absolument génial. Il y a une formule, toutes les deux phrases, qui nous scotche comme ça, tellement c'est parlant, visuel, inventif. Enfin, c'est vraiment un plaisir de lecture à chaque page. Et puis, il y a quand même ce suspense, parce qu'on se demande mais où est passé Amani ? Et ça, il le mène très, très bien.
Mais on n'est pas inquiet.
On n'est pas inquiet.
On se doute qu'il n'est pas arrivé malheur.
C'est un livre vraiment magnifique, à la fois sur l'attachement et sur l'arrachement, parce qu'on a parlé des lieux, de cette banlieue, de cette caverne qui sert de décor. On découvrira qu'il y a un autre lieu. Et c'est vraiment, c'est ça qui est très, très beau. C'est un livre sur l'attachement et sur l'arrachement.
Et il arrive quand même à faire du suspense sur un non-événement. Parce que la mère qui dit à son fils de 36 ans, je pars, mais je vais revenir, je t'aime, à bientôt. A priori, pas de panique. Et c'est le cataclysme. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que sur un non-événement, il crée un vrai suspense.
Je précise que le chat est important et la baignoire également.
La baignoire.
On saura tout. 4 jours sans ma mère. Bon premier roman de Ramsès Kefi. Est publié chez Philippe Rey. On continue avec l'Irlandais John Boyne, d'abord mondialement connu pour ses livres jeunesse et qui vient de recevoir 2 prix, celui du roman Fnac et le Femina du roman étranger avec Les éléments. Les éléments se composent de 4 histoires entremêlées, chacune fait écho à l'autre, comme par ricochet, et elles se rejoignent à la fin. Dans ces 4 histoires, il est question de violence sexuelle depuis plusieurs points de vue. Celui des victimes, celui des coupables, et celui de leur complice. Il y a Vanessa, une femme qui fuit son passé en changeant d'identité. Il y a Evan, un footballeur impliqué dans une affaire de viol. Freya, une chirurgienne qui fait payer son passé traumatique à des enfants. Et Aaron, qui veut protéger son fils. Comment la violence se propage comme une onde sur plusieurs générations dans une société irlandaise qui passe les crimes sexuels sous silence ou qui donne peu de crédit à la parole des victimes? Le lien entre tous les personnages de ces 4 histoires est familial ou géographique, parce que le livre commence sur une île au large de l'Irlande que l'on quitte pour Dublin et sur laquelle on revient dans la dernière partie. Laurent.
Je respecte le fait que tu te sois trouvé obligé de raconter un peu l'histoire et en même temps, pour les gens qui n'ont pas encore lu le livre et,
j'en ai trop dit,
et que je vais encourager à le lire, je le déplore parce que moi, j'ai eu la chance de le lire sans savoir ce qui m'attendait et donc de découvrir chemin faisant. Et c'était vraiment assez jouissif. Parce qu'après l'avoir fini, je suis allé un peu en ligne voir ce qui se racontait, qui était le gars. Et j'ai eu l'impression que le livre était à la fois, alors ça n'engage que moi, mais surestimé et sous-estimé. Surestimé en cela qu'on le crédite ici et là d'un point de vue sur le bien, le mal, la nature humaine. Et là, pour le coup, en tant qu'expression et manifestation d'un point de vue sur l'ordre cosmogonique ou moral des choses, je serais enclin à dire que tout le monde peut garder sa culotte et continuer à respirer par le nez parce que ça va pas très très loin. Et même si on devait commencer à prendre le livre au sérieux, en tant que roman à thèse, il y a plutôt des red flags ou des warnings, pardon pour l'anglais, qui se déclencheraient. Donc en fait, un service à lui rendre, c'est de pas trop s'intéresser à ça. En revanche, je trouve qu'il est sous-célébré dans la manipulation du lecteur consentant. Parce que vraiment, moi, j'ai marché comme un seul homme dans toutes les surprises, dans toutes les choses trappes.
Et dans la construction, donc.
Oui, voilà, qui est vraiment d'une adresse qui ferait envie au Cirque du Soleil. Alors le gars n'est pas le styliste du siècle, ni en anglais, ni en français. D'ailleurs, de ce point de vue, la trad n'a pas de trop de mal à être fidèle.
Tu l'as tapé dans les langues ?
Bah, je l'ai lu en anglais et puis après, je suis allé voir en français comment c'était foutu.
Oh là là.
Mais on a lu un autre livre,
mais,
alors.
Mais c'est pas mal parce que du coup, sa phrase sert loyalement le récit, sans agenda perso à promouvoir. Voilà. Mais c'est quand même un plaisir primitif, régressif et délicieux que d'être comme ça, trimballé, de pratiquer une lecture captive et captivée. C'est une fiction qui n'est pas précédée du mot « auto ». Et un romancier qui a de l'imagination, ma foi, c'est pas mal non plus. Donc, il est trop tard pour que je recommande à quiconque de ne pas lire le cadre de couverture avant de lire, puisque tu...
Puisque je l'ai fait.
Voilà, mais que ça ne suffise pas à dissuader les gens.
Elisabeth.
Alors, moi, c'est un livre qui m'a laissé une impression extrêmement désagréable, et pas seulement parce que l'auteur a par ailleurs des propos transphobes, ça c'est une chose. Ça s'appelle Les éléments, on est très très loin de Gaston Bachelard et de son analyse poétique du feu, de l'air et de l'eau. Là, l'approche des éléments, elle est vraiment faite avec la subtilité d'un char d'assaut. Donc l'eau, parce que ça se passe dans le milieu de la natation, il y a des malheurs qui se passent dans l'eau, des noyades, etc. Je ne vais pas tout divulgâcher. Le feu, la chirurgienne soigne des grands brûlés. Enfin voilà, tout ça est très très surligné.
Puis l'air, parce que ça se passe dans un avion.
Au cas où on n'aurait pas compris, toutes les trois pages, on nous dit les éléments détruisent tout, les éléments sont dangereux. Donc voilà, la subtilité n'est pas au rendez-vous. Je passe aussi sur les invraisemblances. Alors pardon. Il y a un personnage, il vient d'une petite île, il arrive en Angleterre, il devient prostitué et du jour au lendemain, quasiment, il devient champion de foot. Alors, pardonnez-moi, j'ai grandi à Auxerre, un lieu où il y a le club de formation, la ville de Giroud, et il est impossible de devenir un footballeur professionnel du plus haut niveau sans être passé par un club de formation. Enfin, c'est n'importe quoi.
Donc, mais c'est ce qu'on lui dit, c'est ce qu'on lui dit.
Oui, non, il ils veulent même pas l'auditionner, ils veulent même pas le tester.
Va sonner à la porte du club.
Même justifié en sortant les rames, ça rime absolument à rien. Mais
la temporalité est chelou. Enfin, oui,
si c'était le pire, si ça ne serait pas grave. Je passe aussi sur l'écriture. T'es gentil quand tu dis que bon, c'est moyen plus. T'as quand même des phrases comme il parle d'un prêtre qui était aussi noir que l'as de pique. Bon, je trouve ça assez limite. À un moment, t'as des phrases comme une épreuve longue et éprouvante. Ben oui, c'est une épreuve, donc c'est éprouvant. À un moment, une jeune fille a ses premières règles et sa mère lui dit « Tu as eu ta première période rouge ?» Voilà, même ChatGPT traduit mieux, enfin c'est pas possible. Et surtout, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très poisseux, de très malsain dans ce livre. Il y a une sorte de complaisance. À un moment, c'est horrible, moi aussi je vais parler en anglais, on parle de torture porn, quand il y a une espèce de complaisance comme ça à décrire des scènes de viol, d'agression. Et je trouve qu'il le fait, je sais pas, c'est sale, on s'enfonce de plus en plus dans le glauque. J'ai trouvé ça étouffant, assez mauvais, et j'ai pas aimé ce livre. Vous l'auriez pas compris.
Bernard.
J'ai pas lu le même livre qu'Elisabeth, fallait bien qu'on soit pas d'accord. Enfin, j'ai pas fait beaucoup d'émissions du Masque et la Plume. C'est la première fois que je mets la note maximum. J'ai adoré ce bouquin d'un bout à l'autre. C'est brillantissime en termes de construction. En fait, ce sont quatre novellas de 120 pages. On est d'accord. Eau, terre, feu, air. Feu étant meilleur que les trois autres, sans aucun doute.
Qui est la plus...
C'est
la plus malaisante.
Détestable, cette nouvelle.
La plus malaisante, selon Elisabeth.
Elisabeth, tu as vu des trucs affreux partout. C'est effectivement une histoire horrible.
Des viols, des agressions sexuelles. J'ai pas vu des pâquerettes dans un champ.
Le seul défaut du bouquin, à mon avis, c'est son écriture qui est bonne, mais pas flamboyante comme peut l'être... par exemple Gilbert, pourquoi pas, même si parfois c'est un peu lourdingue, mais surtout...
c'est pas lourdingue du tout, non mais attends.
Mais surtout, l'histoire est absolument formidable. Moi, je ne sais pas, j'ai été happé par ce truc-là. C'est un livre brillantissime, fascinant, et que je vous recommande vivement, mais je ne vais pas développer tous les arguments valables qu'il a développés, parce que je suis assez d'accord avec lui quand même.
Non, mais super sa bouquin. Vision, sa vision du sexe est problématique, clairement. Mais ça, c'est entre lui et son médecin traitant.
Anna.
On n'est pas obligé de subir 500 pages, c'est votre...
Alors, moi, je trouve que c'est un livre qui est une sorte de cours magistral sur l'art d'écrire un grand roman. Je dis ça avec des guillemets. Entendez-le comme vous voulez. Je vais un petit peu développer. C'est-à-dire que y a, sur la couverture, Colum McCann qui dit « l'un des plus grands auteurs contemporains ». Très bien. Colum McCann qui a d'ailleurs écrit un livre sur l'art d'écrire lettres à un jeune à un jeune écrivain. Eh bien, je pense que John Boyne est son meilleur élève si on prend ça comme ça. C'est-à-dire que c'est un livre qui est extrêmement construit, extrêmement architecturé,
mais
qui
pour
est
toi,
impressionnant
trop
dans
scolaire.
Sa forme, mais qui est pour moi trop architecturé, trop puzzle qui se reconstruit. Et si on veut donner des images en termes d'architecture, on est plus dans le gros côté haussmannien que dans l'art nouveau, quoi. Alors après, il a une capacité, un pouvoir de fiction qui est incontestable. Moi, j'ai marché au début. Je me suis dit, waouh, les quatre premières pages, tout d'un coup, il y a une cartographie familiale qui se met en place. C'est vraiment intéressant. On avance, on avance, on avance. Le deuxième, qui est en effet Terre, qui là est vraiment sordide, mais je me dis, pourquoi pas, allons jusqu'au bout dans la noirceur. Non, mais vraiment, j'étais... Enfin, je l'ai lu de bout en bout, sans sourciller. C'est quand même un livre qui m'a vraiment tenue en haleine.
C'est de la gnognotte par rapport à Feu.
Non, mais
C'est la troisième
des chapitres. Non, mais ça, c'est pas possible. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Et pour le coup, ça bascule dans une forme de complaisance.
C'est complètement invraisemblable. Enfin, pardon. Non, c'est n'importe quoi.
C'est
absolument n'importe quoi.
La soirée commence.
Et alors, je dois dire aussi qu'il y a quelque chose de judéo-chrétien que je sens très fort, qui me dérange un petit peu aussi. Dieu est présent, comme ça, plane sur tout le livre, mais on n'en parle jamais, sauf quand c'est le personnage le plus négatif et le seul totalement négatif qui est Brandan. C'est un petit peu étrange. Et puis, l'idée de la réparation à la fin, je la trouve aussi un petit peu naïve. Il y a un côté un peu Crime et Châtiment version Care. Vous voyez,
C-A-R-E, donc.
C-A-R-E.
Il y aura eu beaucoup d'anglicisme dans cette tribune.
C'est parce que je lis des polars atroces pendant tout mon temps libre que j'ai apprécié ça, parce que c'est vrai que c'est atroce. Mais voilà, moi, ça ne me dérange pas.
Les éléments de John Boyne est publié chez Lattès dans une traduction de Sophie Aslanides. On enchaîne avec une Américaine, autrice du plus grand succès de librairie français... voire mondiale, entendez-les. Donc, où en étais-je ? Une Américaine autrice du plus grand succès de librairie français, voire mondiale, de l'année dernière, je veux parler de la très prolifique Frida McFadden. Après les 4 tomes de La femme de ménage, adaptée au cinéma pour Noël, je vous l'annonce, après La psy, puis La prof...
Et avant La dame pipi.
Voici...
Sans doute.
Je pense que nous allons faire court. Voici Le Boyfriend, nouveau thriller avec cravate ensanglantée sur la couverture. Le roman est à deux voix et deux temps. Dans une alternance de chapitres courts, on découvre le passé et les pulsions meurtrières de Tom en parallèle avec le quotidien de Sydney, une New-Yorkaise en quête de l'âme sœur sur des applis de rencontre. Arrête de te prendre la tête, Elisabeth. Les trajectoires de Tom et Sydney vont se croiser, forcément, tandis qu'un tueur en série menace les New-Yorkaises en collectionnant les mèches de cheveux de ses victimes. Facilité de lecture et retournement de situation garantie, quel est votre regard sur ce succès ? Non, mais bon. Ok, d'accord, j'ai eu tort. Quel est votre regard sur ce succès exceptionnel qui attire vraisemblablement des non-lecteurs, dont beaucoup de jeunes, notamment par le biais des réseaux sociaux ? Comme le demande la couverture, le boyfriend est-il l'homme de vos rêves ou votre pire cauchemar ? Je ne sais même pas pourquoi je pose la question. Elisabeth, donc nous allons gagner du temps avec cette tribune.
Oui. Je voudrais d'abord demander pardon à John Boyne, par exemple, pardon à Marc Lévy, à Joël Dicker, à Guillaume Musso, tous ces auteurs
John
que j'ai
Boyle
pu...
avec les autres,
oui. Là, c'est pas possible. Non, mais que j'ai pu éreinter ici. Même, pardon à l'autrice dont j'ai oublié le nom, de 50 nuances degrés, et à côté c'était un chef-d'œuvre. Non, Ce livre est d'une connerie intersidérale. Il n'y a pas d'autre mot. Déjà, bon, enfilade de clichés quand les descriptions, c'est une jeune fille avec un teint de porcelaine, des cheveux noirs de jais, une bouche rouge comme une cerise, enfin voilà. L'usage compulsif du mot date.
En italique.
Et alors, les auditeurs qui ne supportent pas qu'on dise du coup, bah là, tous les personnages disent du coup, pas de souci à la base. Enfin, on se croirait dans les anges de la télé-réalité. Mais alors, le plus grave, c'est la débilité de cette histoire. C'est complètement débile. C'est pas Clara et les chic types, c'est la gourde et les psychopathes. C'est absurde. Alors, juste un truc, je vais très vite, Rebecca. L'héroïne, là, Sydney, la débile. Sa super copine, elle se fait sauvagement assassiner. Les seuls indices qu'on a, le principal suspect, c'est certainement le mec qu'elle avait rencontré, qui est médecin et qui est un beau gosse. 2 mois plus tard, notre Sydney, pas trop traumatisée par le crime, elle rencontre quoi ? Un médecin, beau gosse. Bah, jamais elle fait la connexion. Il faut attendre la page 313 pour qu'elle se dise « Oh, mais la vérité était-elle sous mes yeux depuis le début ?» Bah oui, oui. Et surtout, ça véhicule une vision épouvantable du couple hétérosexuel. Tout le long, elle se plaint d'être une femme célibataire à 30 ans.
Ah oui, non, mais ça, c'est...
C'est pas grave. Et son rêve, le seul salut pour elle, c'est d'épouser un homme à mâchoire carrée. Puisque j'ai appris ici que l'idéal masculin, c'était une mâchoire carrée. Voilà.
Laurent.
Mais ça, c'est effectivement, ça, c'est rien que ça, c'est rédhibitoire. Mais je pense que c'est une perte de temps de faire trop long, parce que ce qui aurait été intéressant, c'est si on avait dû lui trouver des qualités, parce que là, subitement, c'était l'union du peuple et du philosophe dont rêvait Blaise Pascal. C'est les vrais gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, et les snobinards pisse-vinaigre que nous sommes étaient enfin alignés. Mais ça n'arrivera pas ce soir. J'en ai peur. Qu'est-ce qu'on aura dit une fois qu'on aura dit que c'est de la merde ? Notre circonspection, pour le dire différemment, n'attendra pas à la prospérité de l'œuvre frénétique de cette dame. Voilà, enchaînons, gagnons du temps, puisqu'on en a perdu.
Anna,
Alors, je vais faire vite aussi en tirant sur l'ambulance, évidemment, moi aussi quand même. Alors, juste une chose, je me suis surprise à prendre un ton en lisant, et un mauvais ton. C'est-à-dire que je prenais un ton comme un mauvais doublage de mauvaise série. Et vraiment, on ne peut pas le lire de façon neutre, en fait. Comme il y a des italiques partout, le coca, c'est un liquide. Et ensuite, mais attends, si je le vois, peut-être que je vais me faire... assassiné. Et c'est comme ça pendant tout le livre. Non mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que cette fille qui a 34 ans même soit si écervelée. Vraiment, Gossip Girl, mais c'est
Proust.
Non, ça, c'est préoccupant. Normalement, c'est une femme qui parle.
Effectivement, c'est des normaliennes.
C'est l'idéologie, c'est abominable.
Après,
c'est un robinet.
Franchement, au bout d'un moment, c'était tellement brune, débile. Quoi. J'ai ri, mais je me... Enfin...
Bah, écoutez, vous prenez la pire série Z hollywoodienne dans le créneau des films girly, c'est-à-dire toutes trépanées avec des trucs choucroutés comme ça et qui vont au fast-food, et vous faites ça, vous faites le boyfriend. On s'en fout, parce qu'elle va en vendre 300 000, il n'y a aucun problème, parce qu'il y a un public pour ça. Ceux qui nous écoutent, elle s'en fout complètement, parce que le masque et la plume, ça lui passe à 12 000 mètres
mais
au-dessus.
Non, mais non.
Et l'affaire à la gueule, je suis ravi pour City et pour Gélu, qui doivent se faire machin en or, mais c'est illisible. D'ailleurs, j'ai calé au bout de 120 pages, j'en pouvais plus. La vie est trop courte, franchement, on a autre chose à lire. Pas possible.
Le boyfriend de... Frida McFadden est traduit par Karine Zaraguet et publié chez City. On termine avec Un frère de David Thomas qui fut lauréat du Goncourt de la Nouvelle il y a 2 ans avec un recueil intitulé Partout les autres. Un frère s'ouvre avec l'image d'un homme immobile au milieu d'une foule en mouvement. C'est ça le bonheur ? Glisser, écrit David Thomas. Le malheur, lui, fige les êtres. Cet homme immobile que les convives contournent est son frère, Édouard, atteint de schizophrénie. David Thomas n'avait jamais écrit d'auto-fiction. Et à la mort de son frère en 2022, il se lance dans l'inconnu. Écrire par à-coup des scènes brèves et précises, interroger le choix des mots pour dire l'enfermement de la maladie de son frère et tout ce que cet enfermement détruit. Dans la deuxième partie du livre, David Thomas remonte le fil de sa jeunesse avec ce frère aimé, admiré, amateur de blues et de chevaux, Anna.
Alors c'est un livre qui est très particulier parce que c'est quand même un livre, on a le sentiment que David Thomas se l'inflige. C'est un peu comme un chemin de croix, mais attention, je ne dis pas ça de façon négative, hein. Il ne me l'inflige pas. Donc il partage avec nous
son
l'écriture,
inquiétude.
Le chemin d'écriture. Il met complètement en scène toute la démarche et le processus d'écriture qui va avoir lieu. Alors il fait quand même le choix de l'écrire, je dis choix, hein, de l'écrire, de le faire publier et de nous le présenter. Donc comment on reçoit ce livre ? C'est très particulier. Moi, je dois dire qu'il y a quelque chose qui m'est apparu de façon évidente un peu tard dans le livre. Pourquoi il l'écrit ? Parce qu'il présente son frère comme une personne extraordinairement combative, qui s'est battue contre sa maladie, qui était combative dès sa jeunesse. Et donc, ce frère lui a transmis énormément. Il est sans doute la personne qu'il est aujourd'hui grâce à lui. Et le combat d'écriture auquel il doit se livrer pour aller au bout, eh bien, il le doit à son frère et c'est l'hommage le plus juste qu'il peut lui rendre. Donc ça me paraît très beau. Il y a des images qui sont magnifiques, il y a des passages qui sont magnifiques. Après, j'ai été extraordinairement déçue par les dernières pages parce qu'il nous explique des choses que nous n'avons pas besoin de savoir. On les comprend tout seul, et je trouve que c'est très dommage quand il explique qu'il est tombé dans le piège de l'héroïsation de son frère, mais bien sûr qu'il l'héroïse, bien sûr qu'il le romantise, on le sait, on est lucide sur ça, c'est pas grave, le livre était très beau et très juste jusque-là.
Elisabeth.
Oui, je vais faire très, très court. C'est un livre qui est, je trouve, très émouvant dans son refus même de céder à l'émotion. Et Anna l'a très bien dit, c'est effectivement un livre de lutte. Ce frère n'a cessé de lutter contre la maladie. D'ailleurs, il apparaît souvent voûté. Moi, je voyais souvent un boxeur un peu KO. Cette image du corps voûté revient beaucoup dans le livre. Et lui-même, David Thomas, lutte avec ce livre qu'il a besoin d'écrire, mais qu'il n'a pas envie d'écrire. C'est ce qu'il dit. Tu l'as très bien dit. C'est des chapitres très courts, avec des scènes parfois très dures, comme celle où il retrouve le corps de son frère, et en même temps des scènes magnifiques. Moi, il y en a une qui m'a particulièrement émue, c'est pendant l'enterrement juste avant l'enterrement du frère, le père qui a 94 ans, ouais, part avec un couteau et revient, il est allé couper les
fougères
qu'avait planté son fils. Et je trouve que ça dit tout de la finesse, de la tendresse, là aussi plus sombre, hein, bien sûr, que chez Ramsès Kéfi du livre de David Thomas.
Bernard,
Écoutez, c'est un livre dont on sort brisé parce que c'est une épreuve, ce bouquin. Surtout, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui ont dû côtoyer la schizophrénie, des amis, des parents, des proches, je ne sais pas. Mais c'est totalement traumatique. Enfin, la description de ce frère adoré et qui, comme il le dit, comme la plupart des schizophrènes, Édouard était incapable de se gérer. Il y a des scènes dans l'appartement avec le frère, mais c'est une soue à cochon, cet appartement.
Il utilise une anaphore, justement.
Il vient pour essayer de l'aider. Et alors, surtout, il y a la grande question, à qui la faute ? Parce que ça apparaît vers 20 ans, en général, la schizophrénie. Jusqu'à 20 ans, 18 ans, 22 ans, les gens sont normaux, puis un jour, ça ne marche plus. Avec les maladies mentales, écrit-il, les parents sont souvent les premiers suspects. Moins on comprend, plus on explique. C'est ce que font les ignorants. Il y aura toujours des crétins pour vous dire que les parents auraient dû faire ceci ou cela, n'auraient pas dû ceci mais cela. Que oui, bien sûr, avec un tel caractère, pas étonnant que le fils disjoncte l'insondable connerie de ceux qui savent. Face à un psychotique, il n'y a qu'une ligne à tenir, une seule, lui dire et lui faire comprendre par son attitude qu'on sera éternellement là pour lui. C'est ce que mes parents ont fait. C'est un livre magnifique, mais traumatisant au dernier degré.
Laurent.
Moi, j'avais à peu près autant envie de lire ça que de rester coincé pendant 3 heures dans un ascenseur avec Luc Ferry.
Avec Freda McFadden.
Oui. Et en fait, le texte ne m'a pas laissé le choix. Dès les premières pages, dès les premières lignes, j'ai été embarqué. Ce qui est très étonnant, c'est de voir comment la maladie devient une machine à récit, comment elle fabrique de la péripétie, du suspense, des coups de théâtre. Il y a des pages dont le positionnement littéraire est assumé, affiché, clignote comme un gyrophare, mais elles sont justifiées parce que c'est attendrissant de voir l'auteur, le frère, on a envie de dire, parce que là, c'est plus de l'auteur dont il s'agit, c'est le frère qui joue à l'auteur comme si une anaphore déroulée sur 4 pages allait ressusciter le défunt. Enfin, je veux dire, c'est assez bluffant. Et si le livre ne devait servir qu'à ça, quiconque l'a lu ne pourra plus jamais, à supposer que ça a été le cas avant, utiliser l'expression « ah bah il est ou elle est complètement schizo » comme ça, à la légère, et faire des diagnostics à l'emporte-pièce. Il y a des pathologies. Et je pense que les proches de gens qui sont dans le spectre de l'autisme seront d'accord avec ça. Il y a des pathologies qui sont trop graves pour devenir des métaphores vides de sens. Voilà.
Un frère de David Thomas est publié aux éditions de l'Olivier. C'est l'heure de vos coups de cœur. Bernard, qu'as-tu choisi ?
Bah écoutez, j'ai choisi forcément un polar abominable qui se passe dans le monde du feu, n'est-ce pas ? Puisque c'est ce que j'ai préféré chez Boyden. Ça s'appelle Le Roi des Cendres de S.A. Cosby. C'est paru aux éditions Sonatine. Lui, c'est l'avenir du roman noir américain. Vous oubliez Connelly, vous les oubliez tous. C'est lui, c'est Cosby. Il est noir, il vit en Virginie. Ses 4 livres traduits en français sont 4 merveilles, tous, toujours en Virginie. Et là, il nous raconte l'histoire d'une famille, la famille Carruthers, qui exploite un crématoire. Un crématoire. Donc leur boulot, c'est de cramer des cadavres toute la journée. Alors, je vous fais court, hein, il y aura forcément une histoire de bandits, etc. Et le crématoire va avoir une activité surmultipliée parce que c'est le seul moyen de se débarrasser de pas mal de monde. C'est magnifique, c'est remarquablement écrit et je pense que vous allez passer un très grand moment et quand vous aurez lu celui-là qui est sorti il y a 6 semaines, vous vous jetterez sur l'antépénultième qui s'appelait La Colère, qui est en poche, qui est encore meilleur et vous saurez que Cosby est un immense, immense écrivain.
Voilà, le roi des cendres. Des cendres de S.A. Cosby chez Sonatine. Elisabeth.
Oui, juste avant de donner mon coup de cœur, je voudrais juste dire ici tout mon soutien aux libraires qui sont victimes et la cible d'attaques de plus en plus violentes, ouais. des vitrines taguées à l'acide, ça se reproduit. Ce soir où on enregistre l'émission, ils manifestent Place de la République pour dénoncer justement ces agissements. Et souvent, ils sont visés parce que les livres qu'ils mettent en vitrine ou qu'ils mettent en avant sur leur table ne plaisent pas à certains et certaines. Donc, je trouve que c'est très, très important de redire notre soutien aux libraires. Je passe à mon... Quant à mon coup de cœur, il s'agit de « Que faire de la littérature » d'Édouard Louis. C'est un livre d'entretien mené par la critique Marie Kérédi et l'écrivain d'En finir avec Eddie Bellegueule, que l'on sait grand lecteur de Bourdieu et Michel Foucault. Ce livre ici, en fait, a une revigorante archéologie de la littérature. Il en déterre toutes les normes, tous les poncifs, comme le rejet de l'émotion. C'est vrai, combien de fois n'a-t-on pas dit à cette tribune « Ah, oh, ce livre est bien parce qu'il est sans pathos » ou le rejet aussi de la dimension politique. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est les pistes qu'il propose, en tout cas pour faire émerger ce qu'il appelle une littérature de la confrontation. Ça pourrait paraître un peu ardu comme ça, mais en fait c'est un livre extrêmement accessible, très vivifiant, et je pense que la forme du dialogue aussi rend le texte encore plus accessible. Ça s'appelle « Que faire de la littérature ?» Édouard Louis, chez Flammarion.
Pour ma part, je souhaite vous recommander la lecture d'un recueil de textes, ou plutôt d'un recueil de paroles, puisque il s'agit d'un auteur de chansons qui s'appelle Arthur Teboul, chanteur et auteur du répertoire de Feu Chatterton, et ce livre s'intitule « Que savions-nous faire de nos mains ?» C'est l'un des vers de leur chanson, et le livre rassemble des textes depuis leur premier mini-album paru il y a 11 ans jusqu'au dernier, sorti il y a quelques mois. Et finalement, ces textes réunis, ça raconte non seulement l'état du monde, mais c'est aussi un portrait de la jeunesse d'aujourd'hui bien sûr, celle qui écoute autant le rap de PNL que celle qui lit Alcool d'Apollinaire. Alors tous ces textes évidemment prennent un autre relief quand ils sont avec une bande-son rap, électro ou reggaeton même, mais ils tiennent debout dans le silence. Et il y a notamment ce morceau intitulé « À cause ou grâce » qu'il est l'une des plus belles chansons ou l'un des plus beaux textes que j'ai lu récemment et qui commence par ce vers « On avait la plage dans le sablier, on prenait le temps ». Et ce recueil est publié par Segers, éditeur à qui Arthur Teboul avait déjà confié deux recueils de poèmes. Je vous rappelle donc le titre de ce livre aussi, « Que savions-nous faire de nos mains ?» Toutes les paroles de Feu Chatterton. Anna.
Alors, moi, j'aimerais vous parler d'un inédit de Vassili Kandinsky qui s'appelle « Les marches », qui vient de paraître aux éditions Verdier. C'est un inédit au sens où Kandinsky a publié en 1913 un texte en allemand traduit en français sous le titre « Regard sur le passé », mais il l'a remanié et publié en russe en 1918, et ça, c'est inédit. Voilà, ça n'a jamais été traduit, alors que, comme l'explique justement sa traductrice Catherine Perel, qui signe aussi une postface très intéressante du livre, le russe était quand même sa langue maternelle et la langue dans laquelle il était le plus à l'aise. Alors il y a une superbe exposition en ce moment, jusqu'au 1er février, Kandinsky à la Philharmonie de Paris. On peut lire cet essai en écho à l'exposition ou pas, parce que vraiment le texte existe en soi, il est magnifique. On plonge dans son enfance, où il y a dès les premières pages comme le surgissement des couleurs. Ensuite, on va comprendre les chocs qu'ont été pour lui à 30 ans, la découverte d'une des meules de foin de Monet et de Lohengrin de Wagner. Donc il a 30 ans, il est encore juriste, et il décide d'arrêter le droit pour devenir peintre. Il va en Allemagne. Alors on a une image, en tout cas dans les écrits de Kandinsky, qui peut cérébrale, et là, c'est un livre qui est extrêmement sensoriel et que j'ai trouvé très beau.
Donc ça s'intitule « Les marches » de Kandinsky, publié chez Verdier. Laurent.
Moi, j'ai choisi « Le journal d'un prisonnier » de Nicolas Sarkozy. Non, je déconne.
Vous êtes... Il n'est pas encore sorti.
Hein. Oui, mais il a eu les épreuves en exclu.
Ah, d'accord. Ah
bah, Paris sera toujours Paris. Non, je voudrais vous recommander le livre que publie Alain Crugère, et qui s'intitule « On ne parle pas la bouche pleine », du nom de l'émission qu'il a animée 496 fois sur France Culture de 2011 à 2018, et qui, à rebours de ce qui commençait à apparaître à la télévision, à savoir des concours de vérines vomitives ou des simagrées de chefs tyranniques, célébrait la culture de la nourriture. Le livre donc se présente comme l'encyclopédie culturelle de la gourmandise, et c'est le recueil de transcription des entretiens qui composaient l'émission. Alors c'est, si j'ose dire, un régal, rire, parce que défilent des chefs étoilés, mais aussi des philosophes, des historiens, des agriculteurs, pour aborder aussi bien La Fontaine que Gaston Lagaffe, Cervantes qu'Obélix, les recettes de cuisine qu'échangeaient les déportés en catimini que Jacques Borel, le roi des restoroutes. C'est le parfait antidote contre ces figures récemment apparues, à savoir le bon vivant réac, le viandard revanchard, les banquets paillards où on bouffe du cochon coiffé du béret fourni par les organisateurs, en chantant la digue du cul tous en cœur. Là, c'est intelligent, c'est savant, c'est accueillant, c'est copieux, c'est riche, c'est nourrissant, c'est fin, ça se lisse en fin, on ne parle pas à la bouche pleine, Alain Krugère, chez Talbin Michel, au pied du sapin.
Elisabeth Philippe, Laurent Chalumeau, Anna Sigalevitch, Bernard Poirette, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque. Vendredi prochain, 12 décembre, nous serons au TAP, scène nationale de Grand Poitiers, à Poitiers, pour deux enregistrements à 14h et 19h où nous débattrons de l'actualité de la littérature et du cinéma. Je vous signale également une émission spéciale consacrée à l'anniversaire du Masque qui fête ses 70 ans en ce mois de novembre et décembre. Rendez-vous au studio 104 le 19 décembre à 19h30 en présence de tous les critiques et de plusieurs artistes, cinéastes, autrices, auteurs, dramaturges, sans qui le Masque n'existerait pas. Pour assister au Masque à Poitiers le 12 décembre et à l'émission anniversaire à Paris le 19, vous pouvez réserver vos places à l'adresse maisonlaradioetdelamusique.fr. Stéphane Le Guenec réalise Le Masque et la Plume et c'était avec Roxane Avis, Nadège Antonini et Jean-Baptiste Etchepard-Bord aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco pour la coprogrammation et la préparation avec l'aide précieuse de Zora Desgouttes. Rendez-vous dimanche prochain pour de nouveaux enthousiasmes ou désaccords et la même liberté critique sur France Inter évidemment.